Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview du jour, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Catherine Claudon-Ardemar. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes la représentante du Salon chinois de Die.
Tout à fait.
Et à votre côté, Chloé Cottereau, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes chargée de médiation au musée de Die.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes toutes deux ici pour nous parler des journées européennes du patrimoine qui vont avoir lieu du 16 au 17 septembre, dans le pays d'Iwa en tout cas. Très étendue, hein, bien au-delà.
Oui, voilà, la programmation regroupe vraiment beaucoup de villages du Diwa et des alentours.
Comment s'organisent chaque année donc, ces journées européennes du patrimoine? Comment faites-vous pour trouver tous ces lieux? Est-ce qu'on vient vous voir ou alors vous démarchez vous-même auprès de ces sites classés?
Alors, il y a certains lieux qui participent depuis des années aux journées du patrimoine. C'est assez bien organisé. Les lieux sont ouverts tous les ans. À Die, on a la cathédrale, le temple, le musée, bien évidemment, qui sont des lieux où les gens savent qu'ils peuvent aller gratuitement lors de ces journées du patrimoine. Et puis, il y a certains lieux, comme le Salon chinois, qui sont des lieux privés ou fermés en temps normal au public. Et là, c'est vraiment une ouverture exceptionnelle pour les journées du patrimoine qu'on va proposer aux visiteurs.
Chloé, je ne dirais pas tout à fait ça, parce que, en fait, vous ne le savez pas, vous venez d'arriver, mais depuis plusieurs années déjà, peut-être 4 ou 5 ans, je me suis battue pour que ce salon chinois soit visité toute l'année, c'est beaucoup dire, mais de mars, avril, jusqu'à octobre. Vous voyez, donc toutes les semaines, et ce, c'était fait par l'Office du tourisme. Donc pour moi, c'était une grande victoire que j'avais obtenue grâce à la communauté de communes qui est extrêmement bienveillante. Mais je pense qu'il faut le souligner.
Alors, par rapport aux spectateurs qui viennent lors de ces week-ends, est-ce que vous pouvez nous dire quel public vient, si c'est du Diwa ou si c'est des personnes qui viennent de loin pour visiter les sites?
Alors, pour les journées du patrimoine, on a plutôt un public local, en effet, voire départemental, des gens qui sont proches de Die et du Diwa et qui se déplacent juste pour le week-end.
Alors que pour le salon chinois, c'est un peu différent. Ce sont des gens qui viennent de Lyon, beaucoup de Lyon, de Saint-Étienne, de Valence, certes, et puis aussi de Die, ce dont nous sommes extrêmement contents. Mais le public n'est pas uniquement local.
Alors, comment commencer donc avec ce gros week-end? Il y a tellement de choses à voir dans le Diwa. Hein. Rien qu'à Die, il y a combien de sites à visiter?
Au total, on est autour d'une dizaine de sites qui seront ouverts pour le week-end. J'ai parlé tout à l'heure donc de la cathédrale, du temple de Die, le musée, bien sûr. On a également la sous-préfecture, par exemple, qui sera ouverte les deux après-midi, du samedi et du dimanche, avec le samedi une petite présentation faite par le conservateur du musée et le président de l'association Dea Augusta. Et puis, on a aussi des visites guidées qui seront proposées dans des lieux un petit peu qui ne seront pas ouverts en temps normal au public. Par exemple, l'égout romain. Alors, ça, quelque chose qui est fait depuis plusieurs années et qui marche très, très bien. Donc, la visite guidée de l'égout romain. Et puis aussi, on a, par exemple, le jardin des Cordeliers, de l'ancienne église des Cordeliers, qui sera accessible. L'ancienne forge du 19e siècle. Et puis on a par exemple le moulin de l'Aube ou le quartier Saint-Marcel qui là seront présentés par leurs habitants.
Alors les égouts romains, ils existent où précisément dans Die?
Ça, c'est dans des caves. Ce sont des maisons privées, des
Vous
caves.
Vous pouvez peut-être dire ça, non ?
Des caves de maisons privées qui sont ouvertes à cette occasion au public. Là aussi, la visite sera présentée par une personne de l'association Dea Augusta, qui met en valeur le patrimoine romain.
Est-ce que vous parlez avec les visiteurs et à savoir ce qui les intéresse précisément quand ils viennent visiter lors de ces patrimoines ?
C'est vrai que alors déjà ce sont plutôt des explications qu'ils n'auraient pas en temps normal, des gens qui pourraient visiter, qui pourraient passer à la cathédrale ou au musée, mais qui souhaitent bénéficier d'une visite guidée ou alors d'informations un petit peu plus poussées qu'on donne à cette occasion. Et puis aussi, les gens sont très attirés justement par ces lieux qui sont plus discrets, qui sont plus cachés, privés souvent et auxquels ils n'ont pas forcément accès. Je pense à la sous-préfecture, c'est vrai que c'est un lieu public, les gens peuvent y aller, mais à cette occasion, il y a le salon d'honneur qui est ouvert, qui sera expliqué, et c'est quelque chose qui intrigue, qui intéresse les gens.
Alors, ces lieux sont tous classés, ceux qui seront visités ?
Alors non,
mis à part le privé ?
Non, pas forcément. Il y a des lieux qui sont inscrits ou classés monuments historiques, mais pas forcément, parce que voilà, le patrimoine, ça regroupe vraiment beaucoup de lieux. Et puis aussi, on a parfois le patrimoine qu'on va dire plutôt culturel ou immatériel. Par exemple, la cathédrale de Die. Il présente donc l'orgue de la cathédrale, donc ça c'est du matériel, mais on va avoir à cette occasion démonstration d'orgue, des explications par l'organiste et par l'association des amis de l'orgue. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du monument historique, mais qui intéresse quand même les gens.
Est-ce qu'il y aura l'ancienne mairie aussi dans ce parcours ?
Alors, l'ancienne... Au niveau de l'ancienne mairie, on a la chapelle Saint-Nicolas qui est donc ouverte et la mosaïque des quatre fleuves du paradis qui sera accessible gratuitement. Il est possible que la salle du conseil municipal de l'ancienne mairie soit accessible cette année pendant les journées du patrimoine, mais pour l'instant, l'organisation n'est pas encore sûre de ça. Donc ça sera un petit bonus si c'est possible, mais sinon ça sera plutôt l'année prochaine pour la salle du conseil municipal.
Alors, cette organisation exige combien de personnes pour accueillir tous les visiteurs ?
Alors, l'organisation a se fait grâce aux bénévoles principalement. Nous, au musée de Die, voilà, on a une équipe de salariés qui travaillent en partenariat avec l'office de tourisme pour organiser tout ça. Mais c'est vraiment l'implication des bénévoles des différentes associations de défense du patrimoine qui permet à ces journées d'exister et puis de vivre. On a... un tas d'associations, pour les citer, il y a la commune libre de Saint-Marcel, donc l'association Dea Augusta, les amis de l'orgue, les amis du musée et des arts. On a aussi l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme, dans lesquels on a tout un tas de bénévoles qui s'impliquent énormément pour ces journées du patrimoine.
Il y a un réel intérêt du public qui va grandissant chaque année pour le patrimoine.
Oui, et surtout... ces journées du patrimoine sont vraiment ancrées maintenant, je pense, dans les habitudes des visiteurs. Ils les attendent, ils connaissent la date, ils les attendent vraiment avec impatience. Et chaque année, on a de plus en plus de visiteurs à cette occasion.
Je me tourne vers Madame Adhémar. Alors vous vous occupez de ce salon chinois de Die depuis combien de temps ?
Vous avez raison de poser la question, je ne me souviens plus, mais ça fait, disons, 10 ans. Un peu plus même, 12 ans. Et il y a 12 ans, j'avais repéré, mais les gens de Die connaissaient cet endroit. Mais cet endroit était assez inaccessible parce qu'il était habité. En plus, il appartient à l'évêché. Il y avait des curés qui eux-mêmes louaient l'endroit. Donc, on ne pouvait pas vraiment le voir. Mais à un moment... Un des prêtres étant parti, un des locataires étant parti aussi, comme une souris, je me suis infiltrée dans cet endroit et j'ai constaté ce que beaucoup de gens disaient déjà depuis les années 80. J'ai retracé un petit peu dans ma mémoire depuis quand on parlait de ce salon chinois, puisqu'il appartient à un privé qui est l'Église, donc il n'était pas forcément visitable. Donc, à ce moment-là, je m'occupais d'une association de sauvegarde des monuments de la Drôme. Et je me suis dit, c'est quand même stupide d'aller visiter des monuments et de ne pas en faire un cas d'école, de ne pas voir comment on restaure, comment des bénévoles, comment des gens tout à fait normaux et banals peuvent prendre en charge la restauration d'un endroit. Cet endroit est assez extraordinaire, il y en a très peu en France maintenant. Je savais que c'était un endroit rare, je savais que c'était un endroit très bien préservé, ou du moins assez, très abîmé par l'humidité, par le feu aussi, le feu de cheminée. Mais je savais qu'on pouvait sans doute, j'avais pris contact avec des restaurateurs amis qui m'avaient dit qu'on pouvait arriver à une restauration. Cependant, il fallait réunir à peu près 50 000 euros. Il fallait essayer d'obtenir des prix. Il ne fallait pas trop compter sur l'État qui donne peu à des privés, qui peut même ne rien donner à des privés. Et il fallait compter un petit peu sur la mairie qui était très bienveillante à cette époque-là et qui m'a vraiment soutenue en la personne d'Isabelle Bisoire ainsi que la communauté de communes avec Alain Matron qui est toujours en poste.
Alors, la première fois que vous avez pénétré ce salon chinois, quelle impression avez-vous ressenti ?
Une impression de gâchis, parce que je me suis dit, seul l'évêché, seule l'Église peut faire des dégâts pareils, parce que cet endroit avait été très mal entretenu et même abîmé. Quand on fait du feu dans une cheminée où il y a des fresques au plafond, les fresques disparaissent. Mais c'était en fait une chance, ce mauvais entretien, surtout en ce qui concerne la cheminée, qui a préservé en fait toutes les fresques. On ne le croit pas, mais lorsque les restaurateurs ont décapé au scalpel, millimètre par millimètre, toute la voûte qui était noire, elle est ressortie tout à fait comme si elle n'avait jamais été touchée. Donc ça a été une grande chance. Finalement, le désintérêt de l'Église a été une grande chance pour notre intérêt à nous.
Et aujourd'hui, donc, je vous repose la question. Quelle impression avez-vous quand vous entrez dans le salon chinois ?
Je suis désolée, mais parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais il y a quelques années, un ecclésiastique qui était là a décidé de fermer entièrement l'endroit alors qu'on lui avait dit qu'il fallait le laisser ouvert. C'est peut-être pas très chrétien de dire les choses publiquement, mais lorsqu'elles existent, il faut bien le dire. Nous sommes, grâce à cette personne, et aussi parce que le temps faisant son œuvre, l'humidité était prête à arriver, nous nous sommes trouvés devant un problème énorme qui était depuis 2012. Donc, je me bats pour faire une nouvelle restauration. Non seulement une nouvelle restauration, mais il a fallu repenser l'endroit, faire des travaux importants. J'avais trouvé une somme importante, comme je vous l'ai dit, 50 000 euros, des prix internationaux, comme celui d'Europa Nostra au niveau des 27 pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas mal, des fondations privées, des fondations publiques. Enfin, tout le monde avait donné, tout le monde voyait que c'était quelque chose de rare, qu'il fallait absolument préserver. Mais pour une seconde restauration qui consistait à casser la dalle du sol, c'est ce qu'on appelle de l'entretien. Et la direction, la DRAC, la direction des affaires culturelles, ne marche pas pour l'entretien. Elle dit l'entretien, c'est le propriétaire qui doit entretenir chez lui. Donc je me suis tournée vers l'évêque qui m'a écrit très gentiment qu'il n'avait pas d'argent. Le problème restait entier. Heureusement, une fondation que je n'aimerais pas m'a beaucoup aidée et nous avons pu faire une première phase de travaux qui est maintenant terminée. On a dégagé cette dalle, l'humidité n'existe pratiquement plus, nous sommes très heureux. Maintenant, deuxième phase, c'est la restauration du salon chinois. Il faut reprendre la restauration de la partie basse et ça fait encore des frais important. Et donc voilà où nous en sommes.
Chloé, je reviens vers vous. Vous-même présenterez certainement le musée de Die et ce qu'on y trouve.
Alors oui, personnellement, je m'occuperai des visites guidées qui auront lieu à la Mosaïque, donc au niveau de l'ancienne mairie, la chapelle Saint-Nicolas. Donc le samedi et le dimanche matin, il y aura deux visites guidées pour le week-end à la Mosaïque. Et ensuite, en fin de journée, de 17 à 18h, des visites guidées du musée de Die, qui auront lieu également le samedi et le dimanche.
Voilà, et donc une collaboration, un partenariat avec la communauté de communes du Diwa pour ce gros week-end.
Oui, tout à fait. Alors le programme qui sera disponible cette semaine à Die, dans tous les lieux de visite au musée, est édité par l'Office de tourisme avec lequel nous travaillons en étroite collaboration pour ces journées du patrimoine. Et donc, le programme rassemble à la fois les événements qui auront lieu à Die et dans les communes alentours du Diwa. On a par exemple l'abbaye de Valcroissant qui va proposer des visites guidées à la fois de l'abbaye et des cimetières familiaux. Et par exemple, on a aussi beaucoup de choses qui seront proposées à Sainte-Croix. Là aussi, des visites guidées du village et de l'église temple avec l'association qui s'occupe de sauvegarder ce patrimoine. Dans beaucoup de communes alentours, on va trouver des événements plus ou moins importants, des ouvertures, des visites guidées. Et tout ça sera donc disponible dans le programme à l'Office de tourisme et au musée.
Je vois, par rapport à la programmation des visites, ce sont souvent des édifices religieux qui sont proposés à la visite. Est-ce que vous êtes en recherche aussi d'autres types d'endroits ?
Alors oui, c'est vrai que les édifices religieux ont l'avantage d'être plus facilement accessibles au public. Il y a aussi une grosse partie du patrimoine en France qui est donc privée. Et c'est l'occasion, pendant les journées du patrimoine, aux gens qui le souhaitent, aux privés, de faire découvrir leur patrimoine. Alors parfois, ils ne peuvent pas forcément s'en charger parce qu'ils ne veulent pas faire de visite guidée, ils peuvent juste ouvrir. Mais en collaboration donc, avec l'Office de tourisme, avec nous au musée, on peut permettre d'ouvrir certains lieux comme ça à cette occasion.
Et le salon chinois en est un exemple parfait, vous avez raison de le mentionner, parce qu'il sera ouvert le samedi et le dimanche, grâce à l'aide cette fois-ci du curé de Die, qui est maintenant curé de Die uniquement, alors qu'il était à la fois sur Cré et Die. Maintenant, il se charge de Die, et il viendra même voir les gens, comme il l'a fait l'année dernière. Il faut dire qu'au salon chinois, nous avons toujours eu, toutes ces années, entre 500 et 700 personnes, et des étrangers aussi. Et je pense que cette année, je ne sais pas, je n'ai fait aucune, je n'ai dit à personne que ça allait vraiment être ouvert, parce que je ne savais pas si l'entreprise terminerait cette première phase de travaux. Puisqu'elle l'a terminée, on ouvre quand même peu par rapport aux autres fois, sans étudiants chinois, alors que beaucoup d'étudiants chinois venaient nous aider, parce que j'ai décidé que la Chine devait aussi être présente, même si c'est une Chine de fantaisie au salon chinois. Les Chinois sont très intéressés par cet endroit où ils sont venus de Pékin, d'ailleurs, pour au début des travaux, il y a 12 ans.
Ce salon existe depuis quelle époque ?
Ce salon existe depuis le XVIIIe siècle. Le quartier a été complètement défiguré. Donc, quand on se promène dans ce quartier, on ne peut qu'avoir un peu de regret de ces démolitions successives. Mais en France, ça a bien été ça un peu partout. Et grâce à Mérimée, on a pu quand même essayer de mettre un peu le holà. Mais c'est vrai que quand on passe devant cette maison de la rue Saint-Vincent, on ne peut pas s'imaginer que c'était un très bel hôtel particulier au XVIIIe siècle et qu'il était la possession d'un avocat extrêmement en vue à Die à l'époque. Nous avons fait des recherches, nous avons moins travaillé sur l'animation extérieure que sur l'animation intérieure. On a essayé de retrouver qui était le propriétaire, quel était le peintre. Nous avons retrouvé toutes les dates et je dois dire qu'il y a des bénévoles, puisque vous en parliez, Chloé, qui ont été admirables, un pour faire un site du salon chinois, François Jolito, et et Emmanuel Poujol qui travaille, qui est un jeune homme qui travaille, pas si jeune que ça maintenant, et qui travaille, mais qui vient pendant ses journées, dès qu'il a un peu de temps libre, qui vient au musée de Die travailler sur les grandes familles dans l'histoire de Die. Et c'est lui qui a retrouvé la date de la mort du peintre, par exemple. Voilà les bénévoles, ce qu'ils ont réussi à faire, je les en félicite. Et...
Mais on va parler d'Oslon, parce que je trouve que dans la programmation, c'est un village qui s'active beaucoup pour ce week-end, hein, et qui propose une multitude de choses. On peut voir un peu ça rapidement.
Alors, pour Oslon, c'est une première participation du village. Et donc, c'est vrai que le village s'implique énormément cette année en proposant plusieurs visites au sein de la ville.
Ça a l'air d'être bien, ça. Je ne savais même pas. On apprend des choses grâce à vous.
Merci.
Les gens sont tout à fait... Ici, les gens sont tout à fait bienveillants et disposés à faire quelque chose. Dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont tout à fait partants. Moi, je suis étonnée. Et parce qu'à Paris, tout le monde est blasé. C'est de bon ton d'être blasé. Mais ici, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là et c'est bien heureux.
Oui, donc pour Oslon, qui propose à la fois pour leur première participation cette année, donc des visites guidées, des visites commentées, des ateliers également, et puis une exposition qui parlera plutôt du patrimoine naturel. On a aussi une exposition dont je voulais souligner l'importance, qui aura lieu à Poyol. Il propose cette année une exposition en rapport avec le thème donc, de ces Journées européennes du patrimoine, qui est patrimoine et jeunesse, une exposition autour de la jeunesse lors de la Grande Guerre, avec des témoignages de ces jeunes qui ont vécu entre 1914 et 1918, leur ressenti, leur vécu pendant la Grande Guerre.
Par ailleurs, je découvre dans le programme des endroits que je ne connaissais pas, comme Grimiane.
Oui, c'est ça. On a des petits villages qui participent également et qui souhaitent participer à ces journées du patrimoine, faire découvrir leur commune, leur patrimoine. On a donc le village de Gumiane, de Pradel ou de Rimont et Savel, qui sont des villages qui sont un petit peu plus éloignés, mais qui participent également activement aux journées du patrimoine.
Ils sont en altitude aussi ?
Oui.
Oui.
Oui. Et perdu.
Et perdu, voilà. Vous le connaissez un peu, je suppose.
Un petit peu, oui. Je trouve que c'est de beaux endroits, des paysages merveilleux. Donc, les gens ont intérêt à y aller, mais ils le connaissent déjà très souvent, ces endroits-là. Mais ce sont de beaux endroits.
Ça ressemble plus à un hameau qu'un petit village.
Ni à un petit village. Très souvent, il n'y a plus d'église. Ça ressemble à quelques maisons. Ça fait un peu désolé souvent. Mais bon.
Et donc, c'est assez mal desservi au niveau route, je suppose.
Non, parce que les routes dans la Drôme, je tiens à le souligner, sont parfaites. Là, au moins, nous sommes, je trouve, les premiers des premiers.
Est-ce que vous avez établi un nombre de gens qui viennent ?
Alors, l'année dernière, on était à plus de 700 visiteurs sur le week-end. C'est un nombre qui croît normalement d'une année sur l'autre. On attend dans cet ordre-là peut-être 700-800 visiteurs pour le week-end sur Die en tout cas.
Juste pour Die ?
Oui, ça c'était au niveau de Die. Il y a certains lieux dans lesquels c'est un petit peu plus compliqué de compter les visiteurs parce que c'est aussi un travail que doivent faire les bénévoles qui sont présents. De compter les visiteurs, c'est pas toujours évident. C'est plus facile pour les visites guidées lorsque les gens ont réservé et on a un nombre précis. Après, pour les lieux qui sont en libre accès, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais que notamment, par exemple, à la cathédrale, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'occasion pour monter au clocher et accéder à la terrasse pour avoir la superbe vue qu'on a de là-haut. Et c'est vrai que ce n'est pas évident forcément de les compter, mais on est à peu près
On
autour.
Espère qu'ils ne tombent pas, qu'on n'a pas à en coûter en moins.
Voilà, c'est ça, qu'il y en a autant à descendre qu'à monter. Mais voilà, on est dans cet ordre du lait là, autour de 700-800 personnes au moins pour ce week-end.
La classification des sites ou l'époque de ces sites, elles sont prises en compte à partir de quelle année? Est-ce que, par exemple, on peut décider qu'un monument ou un site soit classé même s'il n'a que 20 ans d'existence?
Alors oui, on a des sites vraiment de toutes les périodes qui peuvent être ouverts lors de ces week-ends-là. Ça va de sites préhistoriques à des sites qui sont encore utilisés actuellement et qui sont très récents. C'est vrai que, bon, Adi, par exemple, je vous ai parlé de la sous-préfecture qui est encore occupée actuellement. On a tout un tas de sites comme ça dans les grandes villes où on a accès, qui ne sont pas forcément si vieux que ça, mais qui font quand même partie du patrimoine, à la fois par leur construction quand elles ont quelques années, et puis à la fois par leur utilisation. Ça fait partie du patrimoine culturel français.
Bientôt, nous aurons le patrimoine industriel. Je pense que vous y avez quand même peut-être allusion à ça, à ce nouveau patrimoine, à ce patrimoine des années, disons 30, entre 30 et 50, qui rentre tout à fait dans ce contexte-là.
Hein, c'est vrai qu'en France, on a un label qui s'appelle le patrimoine du XXe siècle, qui est tout à fait reconnu, et donc on a un certain nombre d'édifices, de bâtiments qui appartiennent à ce patrimoine du XXe siècle, ou même plus récent, et qui peuvent être accessibles.
Des édifices comme ces bâtiments, construits il y a plus d'un siècle, uniquement par coffrage et par béton, sans armature.
Oui, voilà, et on n'a pas forcément que des vieilles pierres, hein, bâtiments plus récents, oui, qui ont été construits en béton, par exemple, et qui appartiennent maintenant quand même à notre patrimoine. C'est une part de l'histoire française qui est visible à travers ces constructions-là.
Ces journées européennes, certes, mais est-ce qu'en cours d'année, par exemple, pour les scolaires, vous organisez aussi des visites de ces édifices?
Oui, alors pour le musée, pour la ville de Die, la mosaïque également, la cathédrale, on a quand même des visites qui sont organisées toute l'année, à la fois par l'office de tourisme, donc qui va plutôt se charger des visites guidées dans la ville, et nous, au musée, on s'occupe beaucoup des scolaires, les scolaires du Diwa, qui peuvent bénéficier de l'accès à ces édifices au musée, et donc les groupes aussi sur réservation qui veulent avoir de plus ample information sur ces bâtiments-là, qui peuvent s'adresser à nous.
Et s'adresser à ces jeunes, c'est pour moi un de mes vœux les plus chers. Je suis professeur, enfin j'ai été professeur d'université, je suis enseignante. Et donc tout le public jeune m'a toujours intéressée et m'intéresse. Et on dit très souvent que j'entends dire que peut-être ça n'intéresserait pas les élèves du lycée de Die. Je n'en sais rien, je n'habite pas là toute l'année, mais la nouvelle association, je vais lui demander de s'occuper de ces jeunes. Parce que je suis persuadée qu'on peut les intéresser à travers les cours d'art plastique. Il y a des choses à faire. La Chine, c'est un thème aussi intéressant. Il y a mille façons de prendre les choses et d'intéresser les jeunes. Je l'ai vu l'année dernière lorsqu'est venue une classe d'un lycée suisse. C'est sûr que ces élèves étaient épatants, bien élevés, intéressés. Intéressant, amusant. Moi, j'espère beaucoup, ça c'est un de mes vœux les plus chers, que ce salon chinois s'ouvre encore beaucoup plus aux jeunes. Mais pour moi, c'est un peu difficile à faire. Je ne suis pas toujours là pendant les périodes scolaires. Je n'ai pas d'enfants au lycée, donc le lien ne se fait pas.
C'est par votre métier d'universitaire, en quelle matière précisément ?
Oh, je suis au départ russisante, c'est-à-dire slavisante. J'étais agrégée de russe et ensuite j'ai fait une thèse en études slaves. Mais peu à peu, je me suis dirigée vers les relations internationales à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et je m'occupais des relations des pays d'Europe centrale et orientale, plus exactement de la Russie et de la Pologne, de la République tchèque.
Parlant de Sorbonne, c'est par nostalgie de toutes ces peintures qu'on trouvait dans la salle d'auditoire. Vous vous retrouvez un petit peu avec ce salon chinois ?
Non. Non.
C'est pas de la même échelle, évidemment, mais...
Non, au contraire, non, mais j'ai aucune prétention là-dedans. Non, ce qui m'intéresse, après, en y réfléchissant un petit peu, avec le recul, c'est que les Diwa ont pu s'approprier, se sont appropriés ce patrimoine. Et je dois dire que je trouve ça paraît bête, mais je suis une vieille grand-mère maintenant. Et je trouve touchant que des parents, des grands-parents, emmènent leurs enfants là et leur expliquent qu'en fait, dit, ça n'est pas uniquement le gallo-romain, j'allais dire Chloé, dont ils ont un peu assez, parce que c'est un peu répétitif, qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres périodes qui sont intéressantes à dit, et qu'il y a d'autres mondes, et à travers ces chinoiseries, le monde de la Chine n'est pas anodin, n'est pas inintéressant.
Sans s'étendre, on peut parler de la personne qui a créé ce salon chinois.
J'aimerais bien, parce que grâce, comme je vous l'ai dit, à Emmanuel Poujol, qui est un Diwa pur, nous avons retrouvé la trace de la mort de ce peintre. Au début, nous n'avions, lorsque je suis entrée dans ce salon, je vois un mot, un nom sur ce qu'on appelle des cartouches, enfin sur une des fresques, Farjon Pingxit. Pingxit, on a fait du latin, on voit ce que ça veut dire. Il a peint. C'est Farjon qui a peint. Mais qui était ce Farjon? Après, j'ai fait des recherches, c'est pour ça que je ne me suis peut-être pas trop occupée, pas assez de l'animation avec les uns les autres, mais à chaque fois que je venais, j'essayais de trouver qui était ce peintre. Et je l'ai retrouvé après avoir cru longtemps qu'il venait de l'Ardèche, parce que les premiers tableaux qu'on a trouvés de lui sont des tableaux qui ont été peints dans l'Ardèche. Donc, bêtement, je me suis orientée vers l'Ardèche. En fait, il est né à Cray, d'une famille de drapiers de Bordeaux, en 1716. Il s'est marié à Die. On a retrouvé ça, j'ai retrouvé dans les archives. J'ai été aidée aussi par des étudiants qui ont soutenu un mémoire de maîtrise, donc un mémoire de master, dirait-on maintenant, sur le salon chinois de Die. Je leur ai donné tout mon matériel et ils ont cherché à partir de là d'autres choses. Ils m'ont aidée à trouver des éléments que je trouve très importants concernant la biographie de ce peintre. Donc, on connaît la date de sa naissance, on connaît la date de son mariage. Et après, j'étais bien en peine parce que je voyais qu'il y avait des tableaux qui étaient signés de lui, par exemple, dans les années 1770. Mais je ne trouvais plus sa trace. Et en effet, grâce à Emmanuel Poujol, Emmanuel a trouvé dans les archives du musée que ce peintre était parti à Pont-Saint-Esprit en 1770 et qu'il y est mort en 1793. Donc vous voyez, grâce à un Diwa, on a tout retrouvé. J'en ai retrouvé une petite partie, il a retrouvé tout le reste. C'est bien sympathique, je trouve. Donc on a découvert un peintre qui n'était pas un colporteur, un bon à rien, comme on s'imagine ces peintres de campagne. Pas du tout. Il avait un atelier. Et ça, ce sont les restaurateurs qui me l'ont dit dès le début, en me disant, faites attention, il y a plusieurs mains. Je n'ai pas très bien compris au début, mais ça voulait dire que plusieurs personnes. Il avait un petit atelier et il peignait certaines choses. Il n'en peignait pas d'autres. De Pont-Saint-Esprit, il signait ici des œuvres, mais il n'était plus ici. C'était ses acolytes qui peignaient, en fait. Donc c'était toute une façon de travailler qu'on a pu redécouvrir, de travailler au XVIIIe siècle, et c'est bien intéressant. De la même façon pour le propriétaire, on a retrouvé toutes les dates, et on a retrouvé aussi la destination de cet endroit. Parce qu'au début, je pensais que c'était peut-être un boudoir, comme ça l'est très souvent dans les châteaux, et comme à Schönbrunn, près de Vienne. Et ce n'est pas du tout un boudoir, je l'ai trouvé dans les papiers de la famille de cet avocat, c'est un cabinet d'études, c'est-à-dire un bureau, une bibliothèque. Voilà, et c'était un endroit réservé aux maîtres de maison. Et s'il y avait des chinoiseries, c'était pour impressionner ses visiteurs, ses clients, qui tout ébobie par ce qu'il voyait, avait peut-être plus de facilité à mettre la main au portefeuille. Voilà.
Merci beaucoup. Et Chloé, une dernière question. Est-ce que c'est par passion de l'histoire que vous travaillez au musée de Die ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait mes études dans le domaine de la conservation, de la mise en valeur du patrimoine, notamment le patrimoine bâti. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée au musée de Die, un musée archéologique qui retrace à la fois l'histoire de la ville et qui s'intéresse surtout, donc, comme on disait, à la période gallo-romaine, période médiévale, avec tout un tas de vestiges qui proviennent des bâtiments, des anciens monuments qu'on pouvait trouver à Die et dans le Diois.
Et puis, pour que les auditeurs puissent s'informer, est-ce qu'il existe un site internet avec le programme de ce gros week-end ?
Alors, le programme, vous le trouverez à la fois sur le site internet de l'Office de tourisme du Pays d'Iwa, www.diwa-tourisme.com, et sur le site internet du musée, www.museedodie.org.
Moi, je terminerai en disant qu'il y a un site pour le salon chinois. Tout n'y est pas cette année puisque nous sommes un peu nous étions dans le vague, mais c'est le salon chinois de Die, free.fr. Je dois dire que le musée, la culture à Die n'est pas tout à fait tourné vers le salon chinois. On me dit toujours c'est un privé, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas. Ils ont peur sans doute que je leur demande de l'argent, mais l'argent on peut le trouver même sans certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable. Ils ont toujours refusé. Le musée a refusé une collaboration, un soutien du salon chinois. Et moi, qui ai l'habitude de travailler avec des groupes et en s'aidant les uns les autres, j'ai été extrêmement déçue de cette façon de procéder. Mais c'est peut-être une façon d'Iwaze. Et ça en fait son charme.
Que dire de plus ?
Venez nombreux pour ces journées du patrimoine, profitez-en. Tout est gratuit pour ce week-end-là, c'est bien de le préciser également, que tous les lieux qui sont proposés, toutes les visites qui sont proposées sont en accès libre, en accès gratuit. Donc vraiment, c'est l'occasion de découvrir le patrimoine qui parfois se trouve juste à côté de chez nous et auquel on ne prête pas forcément attention.
Voilà, eh bien, je vous remercie toutes deux d'être venues et donc n'oublions pas aussi ces brochures qui seront à disposition dans les sites de tourisme et dans certains commerces de
Die. Oui, normalement, dans des commerces à Die, à l'office de tourisme, au musée, à la mairie également.
Eh bien, Madame Adémar et Chloé Cotreau, je vous remercie d'être venus et bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Vous êtes Monsieur Sapé.
C'est Pierre Sapé. Donc, je représente le département et la conservation du patrimoine.
Donc, nous allons aborder ensemble ce qui va se passer à Valence pendant ce week-end, donc des Journées européennes du patrimoine. Et particulièrement, vous vouliez vous exprimer aussi sur l'ouverture unique et exceptionnelle des réserves départementales qui sont à Valence.
Eh bien oui, les journées européennes du patrimoine, c'est, comme vous le savez, hein, chaque année, une belle opportunité de découvrir le patrimoine drômois. Et cette année, d'ailleurs, c'est le thème de la jeunesse, ce qui est au cœur de la 34e édition de ces journées. Ça ne vous aura sans doute pas échappé dans le Diois. Et à cette occasion, le département a souhaité proposer une découverte un peu originale, puisque l'idée, c'est bien entendu de faire découvrir au public des lieux qu'ils ne connaissent pas forcément et peut-être essayer de s'intéresser à la thématique. Et il se trouve qu'en 2016, nous avons complètement réhabilité nos réserves départementales qui sont abritées à la chapelle des Cordeliers, une très belle chapelle du XVIIe siècle. Et dans ce cadre-là, on a souhaité proposer l'ouverture au grand public pour la première fois de ces réserves départementales. Il s'agira à Valence donc d'animations qui vont être proposées dans ce lieu un petit peu insolite, puisque on a une façade du XVIIe siècle, mais nous rentrons, lorsque nous franchissons la porte, dans un édifice du XXe siècle. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que cet édifice a fait l'objet de divers remaniements, et les derniers remaniements datent du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour mémoire, cette chapelle des Cordeliers est créée en 1696 pour abriter des franciscain, donc un édifice religieux. Ces franciscains avaient une corde autour de leur robe de bure, d'où le nom de corde et cordelier. Et puis, l'ordre des franciscains est dissous après la Révolution française, et on cherche une nouvelle vocation pour ce lieu. L'armée s'empare et détruit une partie des bâtiments, s'empare de cette chapelle, et elle connaît différents types d'usages. Elle a été manifestement un mitard, ce qu'on peut lire sur la porte d'une des chapelles tranquilles, ici 8 jours de prison. Donc on en déduit aisément qu'il s'agissait là peut-être d'un lieu où on a pu enfermer peut-être certains militaires dissidents entre guillemets. Et puis ça a été aussi un lieu de répétition de fanfares. On a retrouvé de vieilles images de l'armée en train de répéter dans cette chapelle, puisqu'elle faisait caisse de résonance et que à l'époque ça devait intéresser, je pense, les musiciens. Enfin, j'allais dire, la Seconde Guerre mondiale arrive, Valence est bombardée par les Alliés, qui ne vise pas très juste et qui touche une partie du vieux Valence. Les archives, la préfecture sont touchées, on décide de déplacer ce qui restait des archives dans un lieu sûr, et ce lieu sûr, eh bien, c'est cette chapelle des Cordeliers, cette ancienne chapelle des Cordeliers. L'armée n'est plus là, elle n'a plus de vocation. Donc on décide de l'aménager et on crée 5 niveaux à l'intérieur de cette chapelle. Voilà, pour la brève histoire concernant cette chapelle. Et les archives déménagent dans les années 70 et la conservation du patrimoine, nous arrivons aujourd'hui au 21e siècle, décide par le volume qu'elle offre, plus de 2000 m2, d'y aménager ses réserves départementales. Et en 2016, nous y sommes. La chapelle est restaurée. Et donc aujourd'hui, on souhaite présenter ce lieu d'histoire à tous les Drômois, valentinois bien sûr, qui sont, j'allais dire ceux qui souhaitent faire la traversée jusqu'à Valence sont les bienvenus, sachant que d'autant plus qu'il y a un programme bien spécifique, puisqu'on a souhaité créer un certain nombre d'actions en direction du jeune public, et leur proposer de parcourir les collections et les méandres des réserves à la découverte de trésors cachés dans la chapelle, de trouver des indices et essayer de solutionner des énigmes qu'on a concoctées en interne en lien avec toute l'équipe de la conservation. Et puis également de faire finalement de cette chapelle des Cordeliers, sans jeu de mots, une chapelle connectée, une chapelle déconnectée en deux mots. Voilà. Donc on propose justement la découverte d'un nouvel outil que la conservation du patrimoine et le département a mis en œuvre, qui est la carte collaborative du patrimoine, qui d'ailleurs sera intégrée au jeu et qui sera l'occasion de également de pouvoir naviguer de manière numérique sur l'ensemble de la Drôme à travers cette carte. Et puis également les animations dans cette chapelle, hein, qui ces animations d'ailleurs qui vont se tenir, vous l'avez bien noté, le 16 et le 17 septembre, toute la journée, entre 10h et midi et 14h et 17h, on va avoir l'occasion aussi de présenter le territoire à travers des expositions photographiques à l'intérieur de ce lieu, la création aussi de d'immenses bâches qui vont habiller cet espace. Ça va être aussi un moment de rencontre, celle d'un archéologue qui, puisque nous avons dans nos réserves, quelque part, un peu comme des strates en archéologie, différentes périodes qui sont regroupées dans ces réserves, la préhistoire, bien entendu, avec les tailles de silex de Vassieux. Donc un archéologue sera là, notamment Jacques Brochier, pour expliquer son travail le samedi aux plus jeunes. Ça a été aussi l'idée d'une collaboration, c'est-à-dire avec notamment Résonance Média, qui nous a créé, ça va vous parler, vous qui êtes un homme de radio, et nous sommes à la radio, donc d'autant plus, ce qu'on appelle aujourd'hui des immersions sonores, c'est-à-dire qu'on va créer des ambiances sonores à l'intérieur de cette chapelle qui vont être destinées à... aux plus jeunes et qui vont être liés, aux plus grands aussi d'ailleurs, parce que nous sommes de grands enfants, qui vont jalonner comme ça le parcours de découverte de ce jeu de pistes, et qui vont de manière un peu imaginaire recréer les ambiances de la préhistoire, les ambiances de l'histoire du lieu que je vous ai raconté brièvement tout à l'heure, avec un certain nombre de sons un peu onirique, y compris les collections du château de Grignan avec également un son un peu particulier, musique de l'époque de Madame de Sévigné. Voilà. Donc, et puis d'autres surprises. Hein, je ne veux pas tout vous révéler, mais en tout cas, un vaste programme pour ce lieu ouvert de manière inhabituelle et exceptionnelle.
Et puis, on peut aussi aborder Vassieu-en-Vercors, puisqu'il y a aussi un parcours proposé avec une exposition autour des ondes de la liberté. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce titre ?
Absolument. Mais écoutez, il y a une visite qui sera pour le jeune public autour de l'exposition, vous avez raison, les ondes de la liberté. Alors là aussi, nous sommes là aussi une résonance avec la radio RDIWA et puis plus globalement l'ensemble du paysage radiophonique drômois et au-delà. Bien tout simplement, c'était les ondes de la liberté, c'est comment en fait les ondes ont permis finalement aux hommes de se mettre en relation, de rentrer en résistance, de faire passer un certain nombre de messages et comment l'outil radio a été déterminant aussi pour battre et combattre les nazis et s'organiser en tant que résistant. Donc c'est cette exposition qui a été initiée par le musée départemental de résistance Pierre Louffier et puis la conservation du patrimoine qui est proposé de permettre de mieux comprendre au plus jeune public, donc avec une approche, une visite guidée un peu circonstanciée pour le plus jeune public, pour leur expliquer en quoi l'outil radio peut être aussi, au-delà d'un outil de propagande, parce qu'il y a eu aussi, la radio était aussi un outil de propagande et on l'a aussi connu, malheureusement dans notre période contemporaine, sur d'autres territoires du monde comme au Rwanda où ces radios ont permis des choses atroces, mais c'est aussi des outils de liberté, de libération et de résistance. Donc c'est aussi pour montrer toute la place que ce média, entre guillemets, que cet outil a eu et a encore aujourd'hui dans notre démocratie et notre paysage audiovisuel. Donc voilà, c'est ce qui est proposé au Musée de la Résistance, mais pas seulement. Une visite hors les murs aussi est proposée le samedi et dimanche à 10h30, d'une durée d'environ 1h45, 2h, qui propose de découvrir l'histoire du Vercors et de ses paysages grâce à un parcours dans les rues de Vassieu, autrement dit derrière les façades d'un village reconstruit, les richesses d'un passé. Si on revient du côté de Valence, c'est des lieux institutionnels comme la préfecture et le département qui ouvrent leurs portes une fois par an et qui proposent de voir, je serais tenté de dire, l'arrière-cour, c'est-à-dire un certain nombre d'espaces qui ne sont pas habituellement ouverts au public, les anciens salons de réception, le grand salon partagé entre mais également le bureau du préfet de la Drôme, la proximité aussi des jardins côté préfecture et surtout un patrimoine qui, puisque tenez, c'est le thème des Journée européenne du patrimoine, jeunesse et patrimoine, eh bien, est un patrimoine jeune, puisque c'est un patrimoine du XXe siècle. Pour revenir à la chapelle des Cordeliers à Valence, c'est ce lieu qui est le lieu connecté du moment et sur lequel nous avons souhaité apporter un effort vraiment particulier. Nous avons aussi une collaboration avec Ville d'Art et d'Histoire, le service de médiation de Valence Roman Aglo, qui va faire aussi des visites guidées pour vous raconter l'histoire de ce lieu et de cette chapelle. Et tout ça se déroulera, bien sûr, le 16 et 17 septembre à des horaires fixes. D'ailleurs, sur la carte collaborative du patrimoine, si vous tapez carte collaborative du patrimoine de la Drôme sur Google ou sur un autre moteur de recherche de votre choix, vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments du programme ou même sur le site internet du département de la Drôme en tapant ladrome.fr. Vous avez un peu plus de précision sur ce qu'il se passera à Valence et au-delà de Valence.
Sur la Drôme, en
peut-être
général.
Peut-être une dernière chose, si vous permettez.
Oui.
Puisque Guy n'est pas loin, finalement si loin de Cré. Et donc, c'était pour dire un mot aussi de la collaboration qui a été mise en place avec la médiathèque départementale qui est installée à l'entrée de Cré et dont Patrice Mazin est directeur. Et qui, avec lequel nous avons organisé, avec cette médiathèque, pardon, nous avons organisé une collaboration en juin autour d'une carto-partie, c'est-à-dire qu'on réunit des gens pour collaborer autour de cette carte du patrimoine, hein, parce que le but du jeu de cette carte collaborative, c'est que c'est de construire un bien commun à partir de données documentaires de départementales et que toutes les associations puissent aussi les collectivités puissent y contribuer et à l'issue de cette cartopartie, de cet atelier que nous avons animé, des notices ont été réalisées d'ailleurs de gens du Val-de-Drôme mais également pour certains du Diois et le vendredi soir nous avons donné rendez-vous à tous ces contributeurs qui s'étaient réunis au mois de juin pour présenter un parcours par rapport au travail qu'ils ont réalisé. On a suggéré un parcours virtuel du patrimoine à travers ce qu'ils ont rentré comme notice. Et ça sera donc à la médiathèque de Cré le vendredi 15 à partir de 18h en lien avec la mairie de Cré qui elle-même organise une exposition autour d'un lieu patrimonial puisque c'est l'ancienne caserne des pompiers qui sera reconvertie en centre d'art. Et donc pour montrer aussi que quelque part le patrimoine n'est pas quelque chose de figé et d'inerte, mais que reconverti c'est aussi un objet vivant et contemporain, et qu'on peut aussi avec du patrimoine envisager des projets d'avenir.
Eh bien, monsieur Pierre Sapé, merci de nous avoir présenté ces journées européennes du patrimoine qui se dérouleront sur la Drôme et en France, et particulièrement pour Valence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Également. Au revoir.
Interview.
Okay. Bye-bye.